pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est à présent Fatima Yadani, secrétaire nationale adjointe du Parti Socialiste, en charge des fédérations. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Alors Fatima Yadani, le président Macron s'est donc exprimé ce vendredi au Mureaux sur la laïcité et le séparatisme. Il s'agit de lutter contre ceux qui dévoient la religion pour remettre en cause les valeurs de la République. Quelques exemples ont été donnés, les certificats de virginité qui sont délivrés par quelques médecins, des associations sportives qui ne respectent pas la laïcité. Est-ce qu'il faut légiférer pour lutter contre le séparatisme ou bien l'application de la loi de 1905 suffit?
Je crois que là, vous posez une vraie question. À mon sens, il faut d'abord replacer le contexte. À qui s'adresse cette loi? Est-ce qu'elle s'adresse à tous les intégristes religieux? Ou alors, est-ce qu'elle stigmatise particulièrement une religion par rapport aux autres? Donc déjà, ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, bien évidemment, qu'il faut lutter contre l'intégrisme religieux quand il met en cause l'égalité entre les femmes et les hommes, quand il met en cause un certain nombre de choses. Bien sûr qu'il faut remettre la République au centre de toutes nos préoccupations, et ça, c'est essentiel. Je ne suis pas sûre que le fait de légiférer contre le séparatisme, sur ce qui est appelé le séparatisme religieux, soit indispensable. Il suffit juste d'utiliser tous les outils juridiques que nous avons déjà. Alors moi, je voudrais juste replacer quelque chose. On passe notre temps à parler de séparatisme religieux. Bien évidemment, c'est essentiel. Il faut combattre, comme je l'ai dit, toutes les formes d'intégrisme. Mais il ne faut pas oublier également de travailler sur un certain nombre de sujets. Pourquoi on en est arrivé là? Et c'est ça le vrai sujet. Et donc, à chaque approche d'échéance électorale, en fait, on sort ce chiffon, on le brandit en expliquant, les religions, le principe de agiter et, à mon sens, attiser les haines, alors qu'on devrait être plus dans la bienveillance les uns envers les autres. Et ça éviterait notamment de stigmatiser une partie de la population.
Vous parlez de stigmatisation. Vous avez le sentiment que ce débat qui va avoir lieu avant le vote d'une loi risque d'accentuer les fractures ou bien, au contraire, c'est un sujet qui pourrait permettre à tous les Français de se rassembler?
Moi, je suis pour le rassemblement et ce pays, je l'aime parce que mes parents l'ont choisi, ils avaient 20 ans, ils sont venus dans ce pays et moi, je dois tout à ce pays. Tout parce que les outils de la République m'ont permis d'accéder à des études. La République a beaucoup fait pour moi et donc je lui suis redevable. Ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas stigmatiser un certain nombre de populations. Et c'est ça le vrai sujet. Et donc, bien sûr qu'il faut, comme je l'ai dit, combattre les extrémistes religieux, mais bien évidemment, il faut aussi mettre de la République sur l'ensemble de nos territoires. Et je crois qu'il y a une excellente tribune qui est parue hier sur les défaillances de l'État rédigée par le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Et justement, il faut travailler sur ces deux jambes. Et à mon sens, il y a différentes choses, et donc il faut travailler sur les deux. Il faut travailler, bien sûr, sur comment on démantèle ces réseaux, comment on fait sur les territoires pour qu'il n'y ait plus ce type de comportement. Et en même temps, puisque c'est un mot qui est très à la mode, en même temps, il faut essayer de travailler sur pourquoi on en est arrivé là, sur la ghettoïsation, sur l'égalité entre les femmes et les hommes, sur la discrimination au travail, la discrimination au logement, le non-accès aux services publics dans certains territoires. Et comme par hasard, c'est un petit peu aussi ces territoires-là qui sont concernés. Donc, il y a tout un travail qui doit être fait en amont aussi. Et donc, il ne faut pas qu'on fasse ce travail que sur ce volet-là.
Vous faites référence, Fatima Yadani, à la tribune publiée par Shams Eddine Hafiz, le recteur de la Grande Mosquée
Exactement,
de Paris,
excellente
qui dit qu'il est fondamental de rappeler les défaillances de l'État. Oui. Vous parlez des services publics, vous pensez notamment à l'école, à l'éducation nationale?
Alors, moi, je suis un fruit de l'école, donc je ne peux pas me permettre de le dire, mais il est évident que quand on a la chance de rencontrer l'école dans toutes ses valeurs, des enseignants qui ont un certain nombre de valeurs, on ne peut que aimer l'école. Et c'est vrai que quand on a des enfants qui sont des décrocheurs pour différentes raisons et qu'on n'arrive pas à les récupérer, ça, c'est un petit peu aussi la défaillance. Alors, pas de l'école, de l'éducation nationale. pas de l'école et des enseignants parce qu'ils font avec ce qu'ils peuvent et avec ce qu'ils ont, et plutôt du système de l'éducation nationale. Et on connaît le nombre de postes qui sont tous les ans diminués, et particulièrement sur un certain nombre de territoires, ou les enseignants qui ne sont pas remplacés. Je pense que ça aussi, il faut en parler.
Vous reprenez à votre compte l'expression « territoire perdu de la République » ?
Moi, je prends rien à mon compte. Je veux juste dire qu'il faut mettre de l'égalité sur l'ensemble des territoires de notre pays.
Alors, vous vous rappelez bien sûr, Fatima Yadani, de l'incident à l'Assemblée nationale. Trois élus qui ont quitté une réunion parce que la représentante de l'UNEF était voilée. Oui. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet incident ?
Alors moi, je suis pour le respect des lois, le respect des règles. Est-ce qu'elle a enfreint une loi ou une règle ? Est-ce qu'elle a enfreint la loi comme quoi elle devait être neutre alors qu'elle était auditionnée à l'Assemblée nationale et qu'elle n'est ni députée ni fonctionnaire de l'Assemblée nationale ? Est-ce qu'elle a enfreint un règlement intérieur parce qu'elle portait son voile ? Qu'on puisse se poser un certain nombre de questions, pourquoi une jeune femme est voilée, qu'elle est dans un syndicat de gauche et tout ça, on peut se poser légitimement tout ce type de questions. Mais par contre, elle n'a enfreint aucune règle et aucune loi. Si on reste sur le terrain de la loi et des règles, elle n'a rien enfreint. Donc, à mon sens, je trouve que les députés, au lieu d'échanger avec elle en essayant de comprendre la situation, je trouve que c'est irrespectueux et immature que d'avoir eu ce type de comportement.
Fatima Yadani, une enquête a été ouverte après un nouveau dérapage d'Éric Zemmour sur les mineurs isolés. SOS Racisme a déposé une plainte et a saisi le CSA. Le vice-président du Sénat socialiste, David Assouline, accuse CNews d'avoir diffusé des propos racistes en toute connaissance de cause. Que vous inspire ce nouveau dérapage d'Éric Zemmour, qui a été récemment condamné pour incitation à la haine raciale ?
Moi, je ne comprends pas. Honnêtement, je ne comprends pas que dans un pays comme le nôtre, on puisse laisser quelqu'un qui incite à la haine sans être sanctionné, et surtout qu'il puisse avoir une tribune quotidienne pour déverser son venin au quotidien. Et vraiment, je suis stupéfaite à l'idée qu'on puisse lui laisser tribune tous les jours. Et le fait que des sénateurs socialistes, comme vous venez de l'évoquer, comme David Assouline, puissent porter plainte ou le président du groupe, je trouve que c'est quelque chose qui nous grandit, nous les socialistes.
Alors Fatima Yadani, on va changer de sujet. Les Parisiens ont eu la surprise de voir des affiches collées sur les murs avec le portrait d'Emmanuel Macron et ce slogan « Ensemble, nous réussirons ». Ça ressemble à un slogan de campagne électorale. Que pensez-vous de l'initiative des militants d'En Marche dans la capitale ?
Alors, je les connais pas très bien puisqu'ils sont relativement peu nombreux. Donc, je ne sais pas quoi penser. Juste, c'est quand même, quand on affiche, quand on dit qu'on est un parti aussi écologique et qu'on affiche des affiches sur le mobilier public qui ensuite ont pour conséquence que ce sont des agents publics qui nettoient et que, au lieu de nettoyer des murs avec des affiches du parti du président de la République, il serait plus utile à nettoyer à autre chose ou avoir d'autres occupations. Donc ça, c'est de l'argent public qui est en train de payer le nettoyage des murs qui sont collés avec des affiches du président. J'essaie d'imaginer les raisons qui les ont poussées, mais je ne comprends pas du tout. Peut-être parce qu'il y a une baisse de régime, peut-être aussi parce que on sait tous qu'il y a une baisse dans les sondages sur le président de la République, mais à part ça, je ne comprends pas. Si c'est pour réaugmenter sa notoriété, je ne sais pas.
Alors vous avez entendu jeudi soir la conférence de presse d'Olivier Véran sur la progression du Covid-19. Le ministre de la Santé a accordé un sursis de 3 jours à Paris et à la Petite Couronne avant de prendre d'éventuelles mesures contraignantes. Vous qui êtes scientifique, vous êtes docteur en microbiologie, vous êtes inquiète de cette deuxième vague, notamment à Paris ?
Alors en fait, alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cette deuxième vague ? D'abord, il faut se féliciter d'une chose, c'est que l'ascension en fait est beaucoup moins importante pendant cette période que ça ne l'a été au mois de mars. Et ça, pour vraiment remercier l'ensemble des Françaises et des Français sur le respect des gestes barrières. Donc ça ne va pas aussi vite que ça n'a été au mois de mars, et ça permettra peut-être d'éviter la saturation au moins dans les services hospitaliers. Moi, ma crainte, elle D'abord, la santé des Parisiennes et des Parisiens, puisque si le système hospitalier est vite saturé, tout le monde ne pourra pas être pris en charge, et ça peut avoir des lourdes conséquences. Et le deuxième, sur tous les commerçants, je veux dire, quand on est en zone d'alerte maximale, malheureusement, il va y avoir au moins la fermeture totale, alors qu'on est pour l'instant à la fermeture à 22h des bars, la fermeture totale des bars et des restaurants, et donc ça peut non seulement impacter la vie économique, mais aussi la vie des Parisiennes et des Parisiens.
Ça vous semble justifié de fermer des bars, des restaurants? Ce sont des lieux où le virus se propage plus facilement. On voit notamment des Parisiens agglutinés dans le métro. On voit aussi les étudiants qui sont serrés les uns contre les autres à l'université. Est-ce que c'est forcément le lieu où le virus se propage le plus, le bar ou le restaurant?
C'est pas le sujet de propagation, le virus il se propage de la même façon quand on est dans un lieu clos. Le sujet c'est que quand on est dans un bar ou un restaurant, on ne porte plus le masque. Et donc c'est ça le sujet. Quand vous êtes dans le métro, le port du masque est obligatoire. Donc le masque, si on le porte tous, les uns protègent les autres. Donc logiquement, on ne devrait pas être contaminé si toutes et tous nous portons le masque. Et quand on va dans un restaurant ou dans un bar, c'est la proximité et le fait de ne pas tenir la distance, et comme on ne tient pas la distance, on ne porte pas de masque. Et c'est ça, c'est pas parce que le virus circule moins, c'est parce que nous n'avons plus les gestes barrières.
De manière générale, que pensez-vous de la stratégie du gouvernement pour lutter contre l'épidémie et cette deuxième vague?
Ben moi, j'avais déjà dit qu'en fait, on avait eu le scandale des masques pendant la première vague à les attendre et ils ne sont arrivés qu'à la fin de la deuxième vague. Je trouve que là, le problème, c'est le problème des tests et de la stratégie qui est utilisée. Logiquement, alors ça va un petit peu mieux, il semblerait maintenant, mais le fait d'attendre longtemps avant d'être testé et d'obtenir ces résultats pose problème parce qu'on sait que le virus, vous avez beaucoup de virus dans les premiers temps et vous êtes très contagieux dans les premiers temps de l'infection. Et donc c'est pendant tout ce temps où vous ne savez pas que vous êtes positif que vous contaminez toutes les autres personnes qui sont autour de vous. Donc la stratégie au niveau des tests, à mon sens, n'a pas été clairement définie au départ. Et à mon sens, ça aurait pu nous éviter un certain nombre de contaminations si ça avait été mieux défini.
À partir de samedi, les cas contacts à risque qui demanderont un maintien à domicile sur le site de l'assurance maladie ne se verront appliquer aucun délai de carence. Vous aviez demandé, Fatima Yadani, la suspension du délai de carence qui est d'un jour chez les fonctionnaires.
Exactement, parce que en fait, on a un certain nombre de personnes qui sont un certain nombre de fonctionnaires qui viennent travailler malgré le fait qu'ils puissent être symptomatiques. Pourquoi ? Parce qu'on va leur retirer un jour de carence et on sait très bien qu'un jour de salaire un jour de salaire peut être conséquent sur un jour de salaire quand les salaires sont pas très importants. Donc c'est indispensable d'enlever ce jour de carence et ça permettra encore une fois d'arrêter la personne symptomatique au plus vite pour éviter qu'elle puisse contaminer ses collègues ou son entourage.
Vous recommandez aussi aux Français de se faire vacciner contre la grippe ?
Oui, alors moi oui, parce que d'abord ça va éviter qu'un certain nombre d'entre nous puissent se retrouver à l'hôpital et ça va éviter notamment la saturation du service hospitalier et donc permettre ainsi aux gens qui sont infectés par le coronavirus d'être soignés et de ne pas le saturer avec la grippe alors que nous avons des moyens de prévention que sont les vaccins.
Depuis la mi-mars, le télétravail s'est développé en France. On imagine qu'en cas de reconfinement, le télétravail va être à nouveau la norme pour les emplois où c'est possible. Est-ce qu'il faut mieux encadrer le télétravail aujourd'hui ?
En fait, il faut mieux l'encadrer. Il existe. Alors moi, je sais que dans l'établissement où je travaille, on essaye de bien l'encadrer, même si au mois de mars, on est un petit peu partis tous sans encadrement. On a essayé de faire au mieux, au plus vite. Là, on essaye de l'encadrer, et justement pour essayer de respecter notamment un certain nombre de règles, et des règles pour les salariés. Parce que nous, on a des salariés qui ne se déconnectent jamais, qui passent leur temps à travailler. Et donc, il faut remettre un petit peu d'huile dans les rouages, expliquer que c'est une journée de travail, et qu'on regarde pas ses mails à 21h et qu'il faut se déconnecter. Donc dans les deux sens, bien sûr qu'il faut, à mon sens, recadrer les choses, mais quand on recadre les choses, ça se passe très bien de part et d'autre.
Alors dans quelques jours, dans quelques semaines, va commencer la campagne électorale pour les élections régionales. Vous soutenez la candidature d'Audrey Pulvar comme tête de liste en Île-de-France ?
Oui, bien sûr. Alors, comme je l'ai déjà dit à certains de vos confrères, en fait, la candidature d'Audrey, elle a un avantage. C'est de pouvoir faire fédérer autour d'elle un certain nombre de personnes. Des personnalités de gauche, de la société civile, vous l'avez vu, et aussi l'ensemble, et je parle de mes camarades socialistes, l'ensemble des camarades socialistes pour la candidature d'Audrey. Ça ne vous a pas échappé que l'ensemble des responsables politiques de tous les départements de la région Île-de-France soutiennent avec ardeur la candidature d'Audrey, ainsi que la majeure partie du Parti Socialiste. Donc vraiment, c'est une candidature, à mon sens, de rassemblement, d'abord avec les socialistes, la société civile, et j'espère que ce sera une candidature de rassemblement au-delà des partis politiques et qu'elle rassemblera l'ensemble de du peuple de gauche francilien et francilienne.
Pour gagner ces élections régionales, il faudrait que la gauche soit unie dès le premier tour ?
C'est nécessaire et à mon sens c'est indispensable. Nécessaire et indispensable. On le sait très bien, on ne peut gagner que dans le rassemblement. Et donc je pense que Audrey a cœur de faire le rassemblement et je pense que l'ensemble des partenaires de gauche aussi et tout le monde le sait. Donc on va essayer, même si des fois le rassemblement est un peu compliqué à obtenir, mais je crois que c'est un vrai objectif.
Merci Fatima Yadani. Je rappelle que vous êtes secrétaire nationale adjointe du Parti Socialiste en charge des fédérations. Bonsoir.
Merci beaucoup.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.